Peugeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Peugeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Peugeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver sur le plateau de Pleine Lucarne. On avait perdu l'habitude de vous retrouver après une défaite. On a passé tout un mois de février avec un sourire jusqu'aux oreilles en vous accueillant. Là, ça va être un petit peu différent, évidemment, après ce derby perdu face à Lorient. On va y revenir beaucoup sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il aurait pu se passer, sur ce qui va se passer peut-être, parce qu'on va parler de Julien Stéphan. Il semblerait que la prolongation éventuelle de Julien Stéphan soit déjà en train d'être négociée. On parle de tout cela avec Monsieur Clément Gavard de SoFoot. Salut Clément.
Salut Vincent.
Avec Monsieur François Rosy de France Bleu Armorique. Salut François.
Salut Vincent.
Nous sommes avec Monseigneur Julien Bouguera du journal Rennes Sport, dont voici le dernier numéro, Mars d'attaque.
Ouais. Bah pourquoi pas. Hein,
oui, c'est... non mais bien sûr. Mars, c'est dur d'être mensuel, comme dirait.
Ça vient de démarrer. Le 4 Fretinier. Mars.
Exactement.
Il peut se passer autre chose à la fin du mois.
Il peut se passer beaucoup de choses. Nous sommes aussi avec Laurent Frétinier de West France. Salut Laurent.
Bonjour Vincent.
Vous n'êtes pas mis comme nous en vert, la couleur de l'espoir,
non,
de l'espérance.
Non. Vous avez de l'espérance,
oui,
votre sommaire ne le montre pas. Mais...
On va en tout cas revenir tout de suite sur le match entre Rennes et Lorient. C'était hier après-midi, 17h05, route de Lorient, la mal nommée. Du monde, beaucoup de supporters lorientais qu'on a plus entendu d'ailleurs que les supporters rennais, on y reviendra peut-être. Les rennais les premiers en action, débordement de Doué, centre que ne peut reprendre Terrier. Rennes a quelques occasions avec des déboulés, quand c'est pas à gauche c'est à droite avec Blas. Son centre va trouver, voilà, la bonne défense de Lorient, la défense bien regroupée. Là, c'est un ballon en profondeur de Blas pour Kalimuendo avec une frappe de pupille. Mais pourtant, c'était bien donné. Et quand le ballon est perdu au milieu de terrain par Bourigeaud, Tiemoué Bakayoko ne cadre pas. Donc, c'est assez équilibré, ce match. Mais les Rennais ont du mal, hein, ont du mal quand même à trouver la faille. Ils auraient pu la trouver. Là, on y reviendra dans ce match. Ils réclament un pénalty, mais M. Bastien estime que le joueur, voilà, était sur un appui, sur un tacle glissé, et que donc, il n'y a pas main. Alors Kalimuendo va essayer d'y aller tout seul, mais sa frappe cette fois trouve le gardien à la mi-temps, 0-0. En deuxième période, Désiré Doué déjà frappe, ça passe tout près du but de Yvon Mvogo. Et puis il y a cette action avec un premier ballon repoussé par Mandanda, Seydou qui est très loin de son tireur, derrière une sorte d'arrêt pour le caméraman, mais derrière c'est relâché et ça fait 1-0. But donc de Bamba. Les Rennais essayent de réagir. Ils ont des opportunités, comme ici avec ce ballon de Doué qui passe devant le but de Mvogo. Personne pour se jeter. On va retrouver Guiri qui est entré en jeu parce qu'il n'était pas titulaire au coup d'envoi. Et Mvogo, comme un gardien de handball, dégage. Coup franc, tête de Hou qui passe devant les buts de Mvogo. Il y a quand même des occasions pour revenir au score. Et puis voilà ce qui arrive souvent dans ces cas-là, un dégagement derrière, une passivité de la défense assez flagrante avec ici Salah et puis Hou qui se fait complètement mystifier par le jeune Elie Kroupi Junior. Regardez, Salah défend pas très bien derrière, Elie Kroupi passe dans le dos de Hou qui était rentré en jeu lui aussi et ça fait 2-0. C'est très bien joué de la part des Lorientais. 2-0, on se dit que c'est le score final, mais non, parce que Guiri, pendant 2 minutes, va redonner un peu d'espoir. Il se retourne bien dans la surface de réparation. Il inscrit un but, mais c'est trop tard. 2-1, ce sera le score final. Rennes s'incline, et cette saison encore, le Stade Rennais donne 6 points à Lorient. Comme la saison dernière, ça paraît quand même assez invraisemblable. On regarde le classement. J'ai envie de vous demander si c'est une vraie mauvaise opération comptable, les gars.
Bah, les gens disent oui.
Les gens disent oui dans le public.
Bah, clairement, même si Nice a perdu, quand même, Brest a gagné, Monaco a fait match nul, Lille a gagné, Lens a gagné brillamment hier soir.
Marseille a gagné,
beaucoup de monde a gagné, c'est une très très mauvaise opération. Puis surtout, il fallait gagner contre une équipe de bas de tableau avant les gros morceaux qui arrivent. Moi, je trouve que c'est vraiment un vrai coup d'arrêt. Quoi.
Ouais. C'est une mauvaise opération, évidemment. Après, 6 très bonnes opérations. Donc oui, mais c'est malheureux que ça arrive face à Lorient, comme le dit Laurent, surtout avant cette grosse phase. Mais c'est la Ligue 1. J'espère que c'est un simple incident de parcours. Mais voilà, c'est tellement serré, tout le monde peut battre tout le monde. Il va y avoir plein d'oppositions directes dans les prochaines semaines entre toutes les équipes qui jouent l'Europe. Je pense qu'on en saura un petit peu plus sur la gravité de cette défaite d'ici quelques semaines.
Alors, il ne faut sans doute pas tout remettre en question, mais on regarde encore le classement. Est-ce que le podium, il faut encore y croire ?
Bien sûr.
Ah bon ?
Bah oui. Pourquoi vous voulez pas y croire ? Rennes était 15e au mois de décembre.
Oui.
Là, ils sont 8e. Vous avez, comme vient de le dire François, plein d'oppositions directes qui arrivent. Marseille, c'est quand même pas des foudres. Hein, parce que bon,
mais Marseille, ils sont pas sur le podium.
Non, mais quand on parle des équipes qui devaient y être, on parlait de Marseille, on parlait de Monaco. On voit bien que toutes ces équipes-là, elles sont totalement inconstantes. Lille est capable de perdre à Toulouse. On pourra peut-être faire des constats un peu définitifs à la 30e ou 31e journée. Mais là, c'est encore très, très ouvert. Et ils sortent de 9 matchs, enfin 8 victoires à nul. Enfin, c'est
d'accord.
Une série énorme.
Ok, bon, okay, c'est plutôt assez rirant ce que vous dites, Julien.
Le podium, c'est compliqué, ça va être compliqué, mais cela dit, Rennes va jouer Brest, Marseille, Lens, Monaco, donc il y aura Lille, donc il y aura des concurrents directs. Il faut un moment de temps où Rennes peut aussi gagner contre des concurrents directs, c'est pas interdit. Je trouve qu'il y a un peu un héritage des deux où on se dit Rennes va à Lille, c'est bon, c'est fini, c'est 0 points. Bah non, on a vu Nice, Monaco, Lille gagner à Rennes récemment, les semaines dernières.
Mais on n'a pas vu grand monde gagner à Lille quand même.
Oui, c'est vrai, mais maintenant, oui, c'est une mauvaise opération, mais c'est pas la défaite d'hier, c'est la première partie de saison qui va être traînée comme un boulet à chaque fois. Dès qu'il y a une contre-performance, on va s'en rappeler que Rennes revient de loin, que Rennes cravache depuis un an, deux mois, et ça va être tout le temps pareil. Donc c'est la phase aller, le problème, c'est pas le match contre Lorient.
Ouais, c'est ça. Hein. C'est vrai que le retard pris au début fait que aujourd'hui le moindre coup d'arrêt plombe
une série
un peu.
Exceptionnelle. Ouais. Donc
le problème, c'est qu'il fallait cette série pour être vivant en Ligue 1, pas pour être sur le podium. Là, ils sont vivants.
D'accord.
Cette série a permis de continuer à potentiellement y croire. Vous demandiez est-ce qu'on croit encore au podium effectivement. Ça peut paraître compliqué, mais encore une fois, dans cette Ligue 1 où tout le monde peut battre tout le monde, Monaco, ils sont sur le podium. Monaco, c'est l'équipe la plus inconstante du monde.
D'accord.
Un match, ils peuvent battre un gros et le match d'après, ils vont perdre contre un petit.
On est déçus.
Après le podium, ça reste quand même compliqué. On voit que Brest est à 11 points. C'est 4 victoires pour les passer. Ils n'ont pas l'air de vouloir.
Ça n'a pas l'air de.
Oui, et puis donc, il ne reste que 4 matchs à la maison, même si Rennes n'est pas performant à la maison cette année. A déjà 4 défaites comme l'année dernière. 3 matchs nuls. Donc, c'est pas terrible à la maison. C'est plus du tout une forteresse et on reçoit quand même beaucoup de gros qui vont venir à l'aise.
Alors les gros, j'ai l'impression à domicile Rennes est plus à l'aise face aux gros parce qu'il y a un côté aussi ambiance, hein, vous en parliez. Hier c'est lénifiant, c'est la pire ambiance que j'ai vue au Roazhon Park depuis
des
mois.
On a entendu que les Lorientais.
Ah mais que les Lorientais, mais je pense que les supporters comme nous, comme les joueurs, ils sont peut-être fatigués aussi de l'enchaînement des matchs, je sais pas. Mais franchement, il y avait zéro ambiance, c'était dramatique.
Mais la Coupe d'Europe, en revanche, c'est pas en dehors du podium, la Coupe d'Europe, c'est pas un compromis parce que comme dit Julien Stéphane, le sprint final, on l'a vu l'année dernière en 5 matchs, combien de points Rennes a récupéré.
Oui, mais ça revient pas tous les ans. Quand même,
non, c'est sûr.
Et Rennes, en 7 journées, a récupéré 11 points sur Nice. On sait pas. C'est la Ligue 1, c'est très inconstant, c'est des séries, c'est des cycles.
Mais en plus, l'Europe, en général, c'est bien. Il n'y a pas forcément besoin d'aller faire la Ligue des Champions.
Faut pas être barragiste.
On la verra au Roazhon Park, a priori.
Ah oui, alors ça, on va en parler. Parce que oui, regardons le classement, puisque c'est ça. Si on le revoit le classement, Brest est plutôt pas mal parti pour aller en Ligue des Champions. On voit pas le classement ? Si, on va le revoir. Voilà. Et alors il se dit que les matchs pourraient avoir lieu à Rennes parce que le stade de Brest est pas aux normes.
Voilà, il est pas aux normes. Guingamp et Lorient se détestent avec Brest. Hein. Il y a des grosses rivalités, en tout cas plus qu'avec Rennes. Donc effectivement, forcément, c'est une hypothèse qui circule, mais il y a la Beaujoire.
Oui, dans la Bretagne, il y a 5 départements.
Il y a la Beaujoire, non, évidemment.
Ça peut être partout en
surtout,
France, hein.
Surtout, il paraît qu'il y a des dérogations assez fréquentes à l'UEFA.
D'accord. Donc
il pourrait y avoir des 2-3 choses dans le blé, mais
d'accord.
Mais
parce que ça serait quand même un comble.
Qui s'appelle le blé pour l'UEFA, ils veulent y aller. Hein.
Mais
Bah, ça serait quand même un comble que Rennes essaye depuis 20 ans d'aller en Ligue des Champions. La seule fois où il réussit, c'est parce qu'il y a le Covid.
Il y a dans un stade vide, du coup. En fait, moi, ce qui m'embêterait, ce serait ça, quoi. De voir un autre club que le nôtre jouer la Ligue des Champions dans le stade de Rennes.
Donc, il y a peu de chances quand même de les voir. Hein. On se rappelle qu'ils n'avaient pas prêté pour Vitré en Coupe de France. Pourquoi ils prêteraient à Brest?
Oui, mais enfin, ils avaient voulu prêter pour Saint-Malo et Saint-Malo avait préféré aller jouer à Guingamp. Vous vous souvenez de ça aussi.
Après, ils ont aussi prêté 6 points à Lorient.
On a prêté 6 points. On n'a même pas prêté, on a donné. Et 12 points sur 2 saisons.
Brice, finalement, vous n'aimez pas sa hype, mais finalement, sans être un sorcier, il a le remède contre
Rennes. Il a bien joué le coup. On va parler du match maintenant, les gars. Avec d'abord une composition avec 3 changements. Hein. On avait laissé Matouzibois sur le banc. On avait laissé Guéladoué sur le banc. On avait laissé également Guiri sur le banc. Est-ce que vous avez été surpris, vraiment, quand vous voyez arriver la feuille de match, de voir que Guiri est sur le banc et que Terrier ou Kalimuendo sont sur la feuille?
Oui, moi j'ai été surpris de ne pas voir Guiri titulaire et de voir Terrier titulaire. C'est le premier truc que j'ai dit en voyant la composition. Je me suis dit, Terrier qui a été déjà extrêmement mauvais contre le Puy, je trouve, face à une défense de N2, m'a l'air vraiment pas en canne. Je trouve qu'athlétiquement, il est en déficit très clair. Enfin, il s'est fait rattraper sur des sprints par des défenseurs de N2. Alors aussi bon était-il, hein, on les a bien aimés. Je me suis dit, il ne peut pas enchaîner. Et Guiri, en ce moment, il marche sur l'eau. Enfin, ouais. Il l'a expliqué, Julien Stéphane, en disant voilà, j'avais peur, il a trop enchaîné.
Ah bon, on l'écoute, parce que vous avez été surpris aussi?
Un petit peu, mais sans plus, non.
Ça fait, moi, j'étais très surpris, je pensais que Terrier avait besoin de souffler.
C'est plus Brugeot dans l'axe qui m'a dérangé, qui m'a surpris, parce que chaque année, c'est la même chose. Il y a un ou deux très bons matchs de Brugeot dans l'axe, et on le remet là, alors qu'on voit que, personnellement, en tout cas, je le préfère sur un côté, et ça marchait très bien sur le côté.
On est d'accord. Et sur Guiri?
Moi, j'étais surpris sur Guiri, mais je pensais qu'il y aurait Terrier pour le jeu de tête, parce qu'on a vu les basketteurs de la défense lorientaise, et Terrier, c'est à peu près le seul qui peut jouer de la tête. On a vu que Kaimwendo jouait pas dans la même division, ni à même taille. Après, ça
on le changera plus.
Mais non, ça on le changera pas. Non, mais avoir ça, mais c'est vrai que j'étais surpris que Guiri, même si on s'était dit s'il en fait souffler un, ça sera peut-être Guiri, parce que Kaimwendo dans le cadre de ses rotations, mais quand même je pensais qu'il mettrait Guiri.
Alors il nous a expliqué à la fin du match pourquoi lui, Julien Stéphan, il avait choisi d'aligner Terrier au coup d'envoi plutôt que Guiri, et surtout pourquoi il avait choisi de préserver Guiri. Écoutez.
Pour moi c'est très clair, très simple. Amine, il a débuté les 4 derniers matchs. Alors c'est sûr, quand tu as un gars qui est remplaçant, qui marque, tu vas dire j'aurais dû le faire débuter, mais non, je ne regrette absolument pas. Il a débuté les 4 derniers matchs, il sortait quasiment un mois et demi d'arrêt. J'ai aussi un effectif à gérer, j'ai des corps à gérer, j'ai des organismes à gérer, et ça fait partie de la gestion, parce que si je le fais débuter aujourd'hui et qu'il se pète, et qu'on le perd pour un mois et demi, c'est pour moi. Voilà, parce que je l'aurais certainement fait trop enchaîner en très peu de temps, alors qu'il s'était arrêté depuis fin décembre, de manière importante. Voilà, et quand il a repris, il avait bien repris, mais avec des petites douleurs aussi à la cheville et au mollet, des petites alertes. Et donc, tout ça, il faut le prendre en compte aussi dans la gestion d'un effectif et des hommes qu'on a à disposition.
Voilà, ça se défend, mais quand on a interrogé Guiri, il dit pas tout à fait la même chose.
Pas du tout.
Il dit, je suis en pleine forme.
Non, mais tous les joueurs diront ça, tous les joueurs veulent jouer les matchs.
Il y a quand même une stat, ce que je suis allé regarder, il a effectivement démarré tous les matchs, sauf que les 3 derniers, il n'a pas terminé non plus. Donc, si vous faites de la gestion de Guiri en cours de match, c'est pour qu'il puisse redémarrer. J'ai cette impression.
La semaine aussi, on ne voit pas tous les entraînements non plus. Peut-être qu'à la semaine, il avait des indicateurs qui font que. C'est vrai que s'il y a un but de Terrier, on n'a même pas le débat.
Je sais qu'on disait que la gestion de l'effectif était plutôt bien faite. Hein.
Ah oui, non, mais bien sûr, les choix, ils sont quasi exclusivement les bons depuis qu'il est revenu, Julien Stéphane. On ne peut pas lui reprocher ça. Sur celui-là, on a le droit de se questionner.
Ont été moins bonnes qu'avant Paris, parce que je pense que là il aurait aussi dû changer beaucoup de choses, amener du jus dans cette équipe qu'on a manqué dans toutes les lignes.
Alors, il aurait dû faire des changements plus rapides, peut-être
aussi, mais plus c'est vrai rapide. Qu'il n'avait pas beaucoup de choix au milieu. On ne sait pas pourquoi Azor Matuziwa n'était pas mis, peut-être que comme il n'est pas rentré, il avait peut-être une petite gêne, on ne sait pas, mais je pense qu'il fallait changer des choses au coup d'envoi.
Clément,
c'est aussi là qu'on regrette quand même que Rennes joue sans Lefebvre et sans Rieder depuis ce long tunnel de match, parce qu'un Lefebvre hier entre les lignes face à un bloc bas, ça aurait pu aussi aider. Donc on voit aussi une équipe de Rennes qui tire la langue, parce qu'il y a un effectif qui est pas ultra large à cause des blessures, à cause du recrutement fait que les secondes ne sont pas forcément au niveau.
Il y a une profondeur de banc insuffisante et on le voit bien. Alors ça va peut-être s'estomper avec un match par semaine.
Oui, et puis avec les retours de blessures, après la trêve.
Oui, mais retour de blessure, il y aura peut-être d'autres blessés aussi.
Oui,
c'est quand même assez rare d'avoir tout un effet.
Rennes perd, on n'était plus habitué à ça. avec un tout petit peu de recul, avec plus de 24 heures de recul, c'est pas un si mauvais match que ça, quand même.
Non, non, il y a des occasions. Mais en première mi-temps, je me rappelle avec Loïc Lambert. Alors, je voyais tout le monde catastrophé à la pause, mais nous, sur la première mi-temps, on a trouvé que voilà, Rennes avait essayé. Non, mais je trouve que Rennes n'a pas été efficace. Enfin, moi, voilà, ce que je retire de ce match, c'est la boulette de Mandanda et un duo d'attaque catastrophique.
Moi, j'ai un regret un peu, c'est que je trouve que c'est dommage, peut-être qu'ils ne pouvaient pas aussi physiquement, mais que Rennes n'ait pas fait une entame à la rennaise un peu. Parce que justement, face à des blocs bas comme ça, il faut marquer vite pour changer un peu le cours du match, pour obliger Lorient à sortir, à jouer autrement. Et finalement, depuis 4 matchs contre Lorient de Lubris, Rennes ne marque jamais le premier but. Et derrière, ils se font piéger. Donc, j'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas eu une entame. Intense, rythmé, ce qui souvent aide à marquer. Donc.
Ils ont essayé en début de deuxième, ça a duré assez peu de temps parce que finalement ils prennent ce but donc, avec, bah, qui vient sur une erreur finalement. Mais quand même, une erreur qui vient quand même avec un tir parce que l'erreur, c'est pas une boulette à la Gomis ou à la Omari du match aller. Il y avait quand même deux bons tirs d'abord.
On va revenir sur cet événement. On a demandé à Blas un peu ce qui s'était passé sur le match. Il nous a expliqué ce qui, à son avis, avait un peu manqué à son équipe.
Bah déjà, il y a de la déception parce que c'est un match à notre portée. Lorient a été difficile à jouer aujourd'hui. Avec un bloc bas, ils ont su concrétiser leurs occasions en contre et on n'a pas été vigilants là-dessus. Après, on a fait beaucoup de choses, mais dans le dernier geste, ça a flanché un peu. Et c'est ça qu'il faut rectifier. Il y avait, je pense que la répétition des matchs aussi a joué aujourd'hui, mais c'est dommage de finir cette série comme ça. On aurait préféré la victoire pour bien finir cette série.
Il y a eu deux événements dans ce match Rennes-Lorient, peut-être qui méritent d'être un peu approfondis. D'abord, à la 36e minute de jeu, un pénalty refusé pour Rennes. On revoit l'action, débordement de Kalimuendo. Et là, c'est Laporte, hein, je crois, qui fait un tacle glissé. Et très vite, hein, monsieur Bastien, il dit, regardez, c'est sur un tacle, donc il n'y a pas pénalty dans ce cas-là. On va le revoir sous un autre angle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve que ça a une influence sur l'action. Alors, a priori, la règle qui change tous les 6 mois dit qu'il n'y a pas main. Mais pour moi, ça a une influence sur le jeu. Et la main est décollée, entièrement décollée. Pour moi, c'est pénalty. Mais bon,
Le règlement, il va falloir quand même qu'il soit. Enfin, c'est les instances qui vont devoir se bouger au-delà des arbitres parce que ces règlements-là, c'est plus possible. Là, moi, qu'on m'explique comment on peut tacler là, sans que le bras soit derrière. Enfin, à moi d'être un. D'être surhumain ou de pouvoir bouger son bras à 360, je sais pas, on peut essayer.
Toi, t'es d'accord avec
Moi, vitesse réelle, je suis derrière le but, donc je vois le tacle, et en effet, comme dit Clément, ça annule complètement l'action. On a vu des pénaux siffler pour moins que ça, donc ça peut se siffler.
Oui, mais comment on tacle sans le bras, tu dis donc, c'est-à-dire qu'il faut que la règle, elle est bonne.
La règle, dans l'absolu, elle devrait être.
Fait pour ça, c'est parce que comme le joueur peut pas tacler sans son bras,
le règlement n'est pas idiot, puisque physiquement parlant, voilà. Oui. Mais la main, elle pend un peu, la main, comme il n'est pas non plus ancré au sol.
Mais surtout, il y a un centre retrait quand même, c'est ça qui est gênant, ça annule une action, quoi. Moi, je croyais que c'était ça la règle de base.
Bah oui, on sait pas trop ce que c'est que la règle de base. Je voudrais vous montrer une image.
Il y a une main de théâtre qui annihile aucune action et voilà, il n'y a pas pénalty, c'est normal.
On va la voir, mais l'année dernière à Brest, vous vous souvenez ? À Brest, regardez, Traoré.
C'est un peu différent, ce qui tombe.
Il se jette un peu.
Ouais, il tombe, il glisse. C'est pareil.
Ça n'a rien à voir.
Il regarde même pas le ballon. Il regarde même pas le ballon.
Je sais, mais ça n'a rien à voir.
Julien Laporte, il fait un tacle normal de
quelque chose pour argumenter
le ballon.
Alors donc là, il y avait pénalty.
C'est de la mauvaise foi.
Il y avait pénalty là.
Là, de quoi, sur Traoré ?
Oui.
Oui, Traoré, il y a pénalty tous
mais
les jours.
Mais regarde, regarde même pas.
Il y a ses bras, il contre une frappe en plus.
Bon, bah, s'il y a pénalty là, pourquoi il n'y a pas pénalty hier ?
Mais parce que tout à l'heure, c'est un tacle, c'est une action. Moi, franchement, honnêtement, je la comprends un peu. Sur le coup, j'étais énervé comme toujours quand il y a une décision. Comme vous, mais sauf que moi, je m'en remets, contrairement à vous.
Et non, mais là, avec le recul, il est que en début de chauffe.
Et il paraît que, d'ailleurs, il y avait. Mais moi, je ne l'ai pas vu en direct, mais il paraît qu'il y a eu aussi une situation litigieuse dans l'autre sens pour Brest.
Ah, bah, il y a une main de théâtre, c'est ça ?
Oui,
c'est ça. Ah bah on la met dans le dos.
On l'a l'image, la main de théâtre, on va vous la montrer.
J'ai pas vu.
Bon, là, il n'y a rien.
Regardez.
Regardez, là, voilà, non, c'est ça. On va le revoir au ralenti.
Après, il a bougé, ça nil, il aucune... la met dans le dos.
Bon. Ah, si, là,
c'est collé.
C'est pas collé.
Après, Seydou, a priori, sur les bruits, c'est un peu juste aussi. Ça aurait pu
être. Bon. Au moins aussi litigieux, je pense.
Ouais, bah.
Voilà, faut montrer les deux, c'est bien.
Toujours est-il qu'on en sait. Est-ce que la VAR a été appelée sur.
Là, ça a été très rapide, je pense que la VAR n'a pas eu le temps d'appeler. Il y a tout de suite. Monsieur Bastien a tout de suite fait
ça. Un arbitre international dans la tribune, non? Un ancien arbitre international.
Monsieur Jaffredo.
Monsieur Jaffredo.
Je sais pas s'il a été international, Jaffredo.
Je sais pas, en tout cas, Xavier me l'a vendu comme. Xavier Grimaud comme international. Qui nous a dit que la décision était la bonne.
En tout cas, même Julien Stéphan, qui est quand même bien placé pour connaître les règles, il a été un peu dubitatif. Écoutez.
Manque de réussite aussi sur une décision en première mi-temps. Moi, je ne sais pas ce que c'est le règlement aujourd'hui. J'en sais rien. Si c'est plus sifflé, bon, c'est plus sifflé, mais c'est quand même une main qui nous empêche d'avoir une situation sur un centre en retrait avec un joueur qui était libéré. Voilà, ça fait deux matchs où on n'est pas très, très heureux là-dessus non plus.
Deux matchs où on n'est pas heureux, parce qu'on va peut-être les regretter, les deux points perdus.
Paris. Mais là, il dit le joueur a été libéré.
Non, il y a un joueur entre Terrier et
c'est pas la raison de la défaite de Rennes. Il y a aussi eu un manque de tranchant dans la surface, un manque de flair, comme disait François.
C'est un fait de match. Ok, on referme la parenthèse. Je sens bien qu'il faut la refermer.
Vous vouliez faire une demi-heure, comme la semaine dernière.
Il y a eu un autre fait de match, c'est l'erreur de Mandanda. Là, pour le compte, ça. Donc, on revoit l'action. Alors, il est à la limite du hors-jeu, le Bamba, là. Hein. Ça aurait pu peut-être même être sifflé. Et là, comment on peut laisser le joueur. Une nouvelle fois,
on peut la partager aussi.
On va le marquer à partir du moment où le mec qui est en train de.
On peut la partager aussi quand même. On va sur.
Regardez, c'est Idou, il reste à 5 mètres du gars.
Mon mari, ça ligne pas du tout non plus. Il y a un peu une erreur globale, il y a une grosse erreur globale.
Alors, mais il y a aussi une défense qui regarde l'Orient.
Alors sur ce dernier plan, regardez sur ce dernier plan, elle est là la boulette.
Il veut la bloquer.
Hop là la boulette.
C'est pour ça que c'est une erreur pour moi, le gardien. Quand il choisit de capter, il doit être certain à 100% de capter. Si vous n'êtes pas sûr de la réussite de votre geste, bah voilà, vous mettez le ballon loin.
Alors, c'est pas souvent qu'il fait des boulettes. Hein,
Pas de ce genre. Des fautes amenant un but, c'est la première depuis qu'il est à Rennes.
Voilà.
Il fait des erreurs dans le jeu, il fait des relances, des choses comme ça. Mais en statistiquement, c'est pas facile à dire. C'est la première qui amène un but.
On a vu dire, hein.
Oui, mais ça. J'ai peut-être moins dormi.
Ah bah ça peut-être.
Donc la match.
C'est bon. Il est pour Mandanda. Le but, il est pour Mandanda.
Oui,
parce que je vois bien. Vous disiez la
non,
défense.
Il est pour lui, mais il est aussi. Mais la défense, il regarde l'Orient. C'est deux. Il regarde Thierry Ponceau. Omari, normalement, il devait mettre hors jeu Bamba. Il est là, il l'attend un peu. Enfin, c'est aussi un but qu'on a vu souvent cette saison. Une défense qui est là, qui regarde un peu jouer, qui est passive.
Ouais. Encore un cadeau, hein. On fait beaucoup de cadeaux à Lorient quand
Pourquoi
même.
Pourquoi c'est pas qu'une histoire de jeunesse?
Non, c'est pas une histoire de jeunesse, mais alors voilà.
On peut pousser le débat. Est-ce que vous vouliez aller plus loin?
Allez-y.
Non, mais est-ce que Rennes s'est pas un peu précipité en prolongeant Mandanda?
Voilà.
Moi, je me pose la question.
Tout le rôle qu'il a l'an prochain.
Il y a plein de gardiens dans cet effectif, en fait. Enfin, moi, c'est aussi ça. Vous avez quand même un jeune gardien que vous développez, Dogan Aymdar, que vous avez prêté. Ça a l'air de bien se passer pour lui à 3. Alors après, moi, j'ai jamais été un grand fan. Vous avez Gauthier Gallon, qui est un numéro 2, qui vient aussi un peu, j'imagine, en se disant
qu'on va voir en demi-finale
que c'était Mandanda, il y aura une place. Vous avez Alfred Gomis quand même.
Oui, qui est prêté.
Qui est toujours dans l'effectif. Non, mais
Oui.
Je me pose la question. Peut-être qu'ils ont eu raison.
Alors peut-être que c'est. Oui, est-ce qu'il faut. C'est un joueur de vestiaire. Ça reste quand même un gardien intéressant de Ligue 1, expérimenté. Mais si on regarde les fameux stats...
On a eu des gardiens quand même bien moins bons ces dernières années. Je ne vais pas en citer.
C'est un gardien quand même.
J'en ai cité un.
Ouais, je sais.
Forcément, on peut se demander s'il n'y aura pas une saison de trop. Après, c'est vrai que parfois, on a un peu... Pardon. Frustré. Quand je vois Boulka ou Samba, par exemple, je trouve qu'ils ont une plus grande influence sur les résultats de leur équipe.
Tu cites les deux meilleurs gardiens de Ligue 1.
C'est Lens et Nice. Rennes, on peut circuler des gardiens de Ligue 1.
Mais c'est vrai, oui. Mais pourquoi ils sont hauts? Parce qu'ils ont des bons gardiens. Si vous avez un bon neuf et un bon gardien, vous avez plus de chances d'être haut que si vous n'avez pas de neuf et un gardien.
C'est pas un mauvais gardien.
C'est un bon gardien.
Non mais il a quand même dans des stats avancées, voilà. Il est quand même plutôt vers le bas dans la Ligue 1 cette saison.
Bon, bah ça nous amène à parler des notes et des joueurs. Regardez. C'est pas exceptionnel, hein, une moyenne de 4,5 à peu près, avec devant, ben voilà, les deux de devant qu'on n'a pas vu, ça va pas très haut. Mandanda, on vient d'en parler. Et puis, ben, y en a un qui surnage, c'est Désiré Doué, qui est loin devant, devant tout le monde, qui fait remonter la moyenne, François.
Bah, c'est logique, c'est le meilleur Rennais, il a réussi 7 dribbles sur 10 tentés quand même. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte, 70% de dribbles réussis avec autant de tentatives, c'est énorme. Rennes avait aucun espace dans l'axe, donc il fallait réussir à faire des différences sur les côtés. Il les a faites. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne au bout.
Ouais, on va voir des images de
Calimundo
ce qu'il a fait.
Les Terriers ont eu zéro flair. Ils n'étaient jamais bien placés. Ils n'ont pas senti les coups. Ils,
je pense que
Terrier,
c'est
ils se sont pas proposés.
Pas du flair, c'est qu'il n'a même plus le coup de rein pour avancer. Il n'avance plus. Là,
et Terrier, justement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu n'avances pas comme ça, bah, viens entre les lignes et te mettre dans le sens du jeu comme il savait faire. Il ne le fait plus. Il se cache.
Je pense qu'il est fatigué quand même, Terrier.
Pour moi, il a un
droit d'être fatigué.
Après le faire jouer.
Après ça, voilà. Blessure, je pense qu'il a un vrai, c'est sans doute logique, mais naturel, mais il y a un vrai contre-coup sans doute.
Tu pouvais croire que Terrier allait redevenir le Terrier qu'on a connu avant après sa blessure, c'est impossible. C'est,
ah bah
c'est,
si.
mais ça n'existe pas.
Mais si,
mais
ça
non, une telle blessure,
il
mais non.
L'envers, si on peut revenir.
Oui, l'envers, mais c'est très très compliqué, très rare. Oui, dire qu'il enchaîne les matchs, qu'il est marqué. C'est déjà un bon début. En effet, il n'est pas très bon là, il est dans le dur.
Tout de suite, ça, c'est sûr.
C'est logique qu'on.
N'enterrez pas Terrier.
J'ai pas enterré Terrier. Je te dis que
vous dites qu'il reviendra jamais ce qu'il a été.
Il va peut-être revenir.
Mais tu veux dire aussi vite.
Il faut du temps.
Ah bah oui.
Ça va être long, il y aura des creux.
On est tous d'accord. Et Doué.
Doué, c'est très bien. Hein.
Doué, c'est bien.
C'est de mieux en mieux. Il réfléchit de plus en plus quand il joue. On voit, de toute façon, la capacité technique qu'il a. Il est monstrueux sur ce plan-là. Et puis, on voit qu'il lève la tête. Il fait aussi les efforts défensifs.
Je pense qu'il fait de la récupération.
Hier, il a été très, très bon là-dessus. Calimundo, c'est la seule chose sur laquelle on peut aussi sauver son match, d'ailleurs, sur les replis, un petit peu quand même. Mais Doué, c'est hyper intéressant. Et puis, il fait peur à toutes les défenses. Dès qu'il rentre dans la surface, c'est panique à bord.
Hein. Et en plus, il est mal arbitré, je trouve, ce qui le désavantage beaucoup parce qu'il est tellement fort au duel. Des fois, il va gagner des duels légitimes à l'épaule et on va lui donner des fautes contre lui parce que comme il est tellement costaud à l'épaule, il envoie des mecs à 4 mètres, mais c'est le jeu. Enfin, je veux dire,
quand Terrier part seul au but, c'est lui qui récupère le ballon. Je suis pas sûr qu'il y ait faute.
Hein. Ah non, je pense qu'il n'y a pas faute du
tout. Non, il y a pas faute. Non, mais c'était pas un très bel arbitrage de monsieur Bastien.
Mais ça fait plusieurs matchs qu'il est mal arbitré, je trouve, général. Et que, qu'on le prend un peu pour un simulateur, ce qu'il n'est pas, je trouve.
Non.
Et que souvent, on ne va pas lui donner des fautes où il y a des fautes et on va lui en siffler contre lui.
Est-ce qu'il ne reste plus que 11 ou 12 matchs à voir Désiré Doué sous le maillot rennais? 10 matchs de championnat, un ou deux matchs de coupe.
Ça dépendra de l'Europe. Hein, ça. Si Rennes n'est pas européen, c'est sûr qu'il ne restera pas. Mais si Rennes est européen, pourquoi pas
ça, même avec l'Europe, ça va dépendre aussi des offres. Ah, je pense, dans un monde idéal, évidemment, qu'on a envie de le voir faire une saison pleine à Rennes, parce qu'il est encore très jeune, ce joueur. Donc faire une saison pleine à Rennes comme un titulaire en puissance, ça serait parfait, ça serait idéal, ça serait normal presque. Mais bon, s'il y a une grosse offre d'un gros club européen, on sait comment ça marche.
Hein. Ouais, il faudra une grosse offre et gros salaire, parce qu'il est déjà sur un gros salaire.
Il est sur un très gros salaire.
Et donc, il faudra un club qui arrive avec beaucoup de millions et qui puisse derrière faire le salaire.
Mais il faudra aussi un club. Non, mais il faut un gros club. Ouais. Déjà, il faudra un grand club. Parce qu'en fait, Rennes a quand même aussi maintenant gagné cette légitimité. Il n'y a plus besoin d'étapes intermédiaires. Fut un temps, quand vous étiez à Rennes, vous deviez un très bon club européen intermédiaire, puis après le grand club.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même déjà un grand club qui veuille son profil aussi, parce que les très grands clubs, eh ben, ils vont pas non plus recruter pour recruter. Il faut qu'ils aient besoin de
ce genre de joueurs.
Oui, mais Leverkusen, c'est pas un grand club. Leverkusen, à mon avis, pour lui, c'est à aucun intérêt s'ils sont.
Peut-être. C'est au-dessus de Rennes aujourd'hui. Alors,
s'ils sont les champions,
non, mais bien sûr.
Voilà. Oui, mais avec.
Grand club de l'instant.
Je suis d'accord.
On est dans la culture de l'instant.
Oui, vous avez raison.
Leipzig, c'est pas un grand club.
Leverkusen, ça peut être un bon exemple.
Wolfsburg, c'est pas un grand club.
Ils ont un talent qui pourrait partir, qui est Florian Wirtz aussi. Voilà, peut-être que déjà.
Grave blessure. Voilà. Je voudrais votre avis juste parce qu'après on va parler de Julien Stéphan. Seydou, moi voilà, j'ai beaucoup d'interrogations sur Seydou. Je voudrais qu'on pose les choses tranquillement.
On voit qu'il découvre ce poste de latéral droit. Je trouve que défensivement il est très bien dans les duels, dans l'agressivité, mais offensivement je trouve pas qu'il parvienne à apporter, à combiner. Il n'a pas une qualité technique dans les derniers mètres très intéressante, une qualité de centre pareil. Alors après, il peut progresser aussi, il peut se refaire un peu à ce poste. Mais comme ça, comme latéral droit, alors que Rennes était quand même une équipe avec des latéraux qui étaient très utiles offensivement, je trouve. C'était un marqueur aussi du jeu rennais depuis 2 ans. Là, bon, bah, on verra.
Ils
n'ont
pas beaucoup dédoublé avec Blas quand même.
Ils ne se connaissent pas.
Cette action, on n'en a pas reparlé, il peut y avoir pénalty aussi d'ailleurs.
Oh non.
Il met un coup derrière dans les jambes pendant que c'était.
Non, le gars avait perdu le ballon.
Il fait un raffut main fermée au rugby, c'est pénalité. Là, ça devrait être pénalty.
Non, mais Voilà, ok, c'est Idou.
Très fort défensivement.
Ouais, il a des bonnes stats défensivement. Voilà, donc on demande à revoir. Comme on est encore incapable de donner une appréciation définitive sur les deux qui sont arrivés au mercato d'hiver.
Ouais, hein. Je suis d'accord.
Matuziwa ou Seydou. Je...
Matuziwa, il faudra le voir avec Enzo Lefebvre, peut-être.
Oui, mais justement, reste plus qu'11 matchs. Hein. Ou 12.
Ah oui, mais c'est ça. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours pensé qu'avec Santa Maria, ils avaient des profils un peu similaires. Donc voilà. Bon. De toute façon, ils ne l'ont pas recruté pour ça, pour être avec Santa Maria.
Stéphane, alors, il va continuer ou il ne va pas continuer? C'est ça la question. On en est où?
Le Bordeaux.
Ouais, c'est un peu.
Encore, c'est violent.
Ouais. C'est un peu violent, mais. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous savez?
On en est
où?
Lui ou le Sadrana déjà, par rapport à votre Bordeaux là.
Bah, je pense que lui, pensait qu'il pourrait se dire, moi, je vais aller ailleurs.
On ne sait pas. Le monde du foot, il réserve plein de surprises.
C'est vrai. Après, on en est où? Est-ce qu'il y a des négos, les garçons?
Ils se sont pas rencontrés.
S'ils se regardent là, parce que ils savent quelque chose.
Vas-y, Clément.
Allez, Clément.
Allez.
Non, mais je crois pas qu'ils soient encore vus. Je sais pas. Non.
Et c'est imminent.
Bah, ça va peut-être être reporté.
Ah.
Bah non, mais enfin, ils ont perdu après la défaite. Ils devaient se voir cette semaine, je crois.
Moi, j'ai quand même du mal à croire à son discours qu'il a tenu en conférence de presse. Moi, je suis venu pour. Non, un entraîneur a forcément une ambition, une envie, un objectif. Ça me paraît bizarre de pas se projeter, de pas espérer aussi. Continuer à Rennes. Maintenant, il faut voir aussi comment ils vont s'entendre. Est-ce que Fernand Maurice va aussi rester ou pas? Et moi, j'ai peur que ça. Je pense que c'est un sujet qu'il faut régler assez rapidement, en tout cas, parce que j'ai peur qu'en avril-mai, ça pèse aussi sur la saison rennaise sportivement. Ne pas savoir si un coach reste, si un directeur sportif reste, qui va faire quoi.
Oui, donc il faut le prolonger alors.
Non, je sais pas, mais, bah non, mais peut-être. Mais oui, mais en tout cas, il faut prendre une décision. Voilà.
Mais il faut prendre une décision rapide.
Si tu actes le fait qu'il ne reste pas, à l'inverse, ça pèsera aussi. Enfin, je veux dire, c'est très bizarre de faire finir une saison par un coach qui.
En tout cas, si le but c'est de prolonger, il faut le prolonger.
Pour l'instant, il a les chiffres et le redressement qui mérite qu'il y ait négociation, voire prolongation.
Oui, oui.
Mais c'est toujours dur parce qu'effectivement. Qu'est-ce que ça peut donner derrière? On sait que cette Ligue 1 est sérielle, le Stade Rennais l'a été. Est-ce que vous n'allez pas le prolonger? Puis derrière, ça se trouve, il va perdre 7 matchs d'affilée, vous ne serez pas européen. Et...
Le timing des 6 matchs qu'il a donné n'est pas non plus anodin dans les objectifs.
Il dit les 6 derniers matchs.
Bah, les 6 derniers matchs, ça tombe après Monaco. Et donc, en gros, d'ici Monaco, il y aura eu des discussions et des décisions, sans doute.
D'accord. Et On rappelle. Hein.
Parce que la trêve est dans maintenant 12 jours.
Il y a Lille.
Et Marseille à la
Marseille
et trêve internationale, bah, les discussions et les décisions vont se prendre
Strasbourg,
à ce moment.
Puis Strasbourg et Monaco. Coupe de France et Monaco.
Trois
déplacements en une semaine. Voilà ce qui attend les Rennais. Et après, les 6 derniers matchs où ça peut.
Après, ce qu'il faut baser son avenir sur ce qui va se passer. Il a quand même récupéré une équipe qui était au fond du trou. Donc. Pour moi, il faut se projeter en réfléchissant un peu à ce qu'ils veulent faire, le club, avec quels hommes ils veulent avancer, et pas se dire ouais, mais s'ils perdent deux matchs là, on va peut-être hésiter un petit peu. Il faut avoir
c'est quoi le projet.
Et puis il veut des garanties aussi sur l'effectif, parce que hier il a quand même dit à demi-mot qu'ils n'avaient pas un effectif pour capter un seul centre.
En fait, le problème, c'est que. Mais ça, j'aime pas ce discours.
Et bah, je pense que si Stéphane prolonge, ça va être déjà, de toute façon, il y aura une nuée de départ, mais il va refaire une équipe à sa main et ça ne sera pas du tout le même profil.
Alors ça, moi déjà, ce serait une erreur, je pense, pour commencer.
Je pense que c'est ce qu'il veut aussi.
Mais Julien Stéphane, il est jamais meilleur que quand il s'occupe que du terrain. On l'a vu lors de son premier passage, dès qu'il a voulu
prendre
de l'importance ailleurs.
Il prendra de l'importance.
Le terrain, c'est un technicien, c'est un excellent technicien qui s'occupe de
la place est bonne, le salaire est confortable, l'exposition est intéressante. Qui aujourd'hui peut proposer les mêmes sommes à Florian Maurice ailleurs?
Julien Stéphane, il dit j'ai un super vestiaire et puis après il dit j'ai pas les bons joueurs. Enfin, à un moment,
il y a peut-être des super mecs. Mais qui ne sont pas non plus les joueurs qui voudraient.
Non, mais il y a des joueurs de ballon et tout ça, c'est sûr. Mais
bien sûr que l'objectif, il a des manques.
Est-ce que la prolongation éventuelle de Julien Stéphane est liée à un objectif précis? Parce que c'est toujours ça, on ne parle plus d'objectif là.
En tout cas, on ne sait pas, ça n'a pas été formulé officiellement. On n'a pas dit si
redresser l'équipe.
Voilà.
Alors,
il faut espérer qu'ils ont une vision commune, en tout cas pour l'avenir. Ça, c'est certain.
Alors, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est lié? Une troisième fois, on écoute Julien Stéphane.
Il y a 3 mois, la situation, elle était de sortir de la zone de relégation, de prendre de la marge, de prendre du large. Il ne faut pas oublier ça non plus, ce qui était notre mission principale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec un bon résultat, je pense qu'on aurait validé notre maintien, mais on en est quand même pas loin du tout. Donc en 3 mois, finalement, on a très très bien avancé. Je vous ai dit aussi qu'on attendrait les 6 derniers matchs de la fin pour pouvoir donner des objectifs précis. Vous voulez aller vite en besogne, très vite. Et puis vous êtes les premiers déçus là, quand on a une défaite et on se dit c'est terminé, l'objectif auquel on pensait il est terminé. Non, 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 vous voulez aller trop vite en besogne. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des objectifs très clairs entre nous, à l'intérieur du groupe, très précis et aussi très motivants pour les joueurs, croyez-moi.
Voilà, autour de cette table, on est quand même assez intimement persuadé que Julien Stéphan va être prolongé et sera l'entraîneur du Stade Rennais la saison prochaine.
La continuité, ça ne fera pas de mal, hein, de toute façon. Ouais. Il a prouvé par le passé qu'il était capable de tenir ce vestiaire, pas ce vestiaire-là, mais en tout cas le vestiaire du Stade Rennais. Il a eu des résultats. Ça s'est mal terminé, certes, pour lui.
Le vestiaire, à la fin. Si jamais il reste, justement, le défi sera pour lui de réussir dans la continuité. Comme à Strasbourg et à Rennes, c'est ce qui lui a fait défaut. Oui.
Bourigeau, on a parlé en conférence de presse.
Il a dit qu'il allait changer. La deuxième saison est compliquée pour Julien Stéphan.
C'était un très jeune coach. C'est la première fois qu'il était là. Quand même, il démarrait avec une équipe première. Maintenant, il a appris, il a compris.
Il y a une donnée qu'on oublie, c'est la Coupe de France aussi. Parce que s'il va la soulever une deuxième fois, évidemment. Bon, après, la finale est tard. Il faut déjà y aller.
Oui.
Vous parlez de ce match, mais il y a 2 matchs hein, pour l'Europe, en fait. Il faut se mettre ça en tête aussi.
Ouais, ouais.
L'année où il la gagne, ça finit 10e.
Non, c'est vrai, on n'en a pas parlé du tirage, le pire tirage. Hein. Moi, je me suis fait incendier quand j'ai dit ça, mais c'est le pire tirage.
C'est pas l'extérieur,
il est premier ou quatrième de Ligue 1. C'était les deux meilleures équipes. Voilà. C'est les deux meilleures équipes encore en lice.
Vous êtes incendié. Parce que les gens disent mais non, il n'y a pas de pire tirage, il faut battre les gros, il faut battre tout le monde.
C'est pas la Coupe du Monde.
C'est faux.
De France, on peut arriver à.
C'est faux, regardez Valenciennes. Ne pas jouer. En demi-finale, en ayant joué une Ligue 2, et sinon que.
Il faut battre tous ceux qu'on nous propose. Oui, mais quand on les bat à domicile, quand on les joue à domicile ou à l'extérieur, c'est pas pareil. Rennes ne joue jamais de finale à la maison, c'est pas de bol.
C'est pas un bon tirage, même si Rennes aura son coup à jouer. Et pour moi, c'est aussi trop risqué, parce que je commençais à lire hier les supporters catastrophés, c'est la honte, c'est grave, etc. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Mais et en plus, ça n'a aucun sens de dire bon, on mise tout sur la Coupe de France. Personne ne fait ça. Il y a encore un écart de points qui est assez minime. Rennes peut très bien jouer. Cette demi-finale,
ça sera Paris ou Nice. Il y a deux chemins. Ça sera Paris ou Nice.
Actuellement et de Nice, c'est pas évident. Hein. Lequel est le plus malade des deux
En tout cas, Nice peut très bien faire un coup de Paris parce que Boulka est un gardien de tir au but. Donc s'ils arrivent à les tenir,
c'est pas une équipe
qui prend pas beaucoup de buts. Voilà, ils peuvent faire un 0-0 contre Paris.
Même si en ce moment Nice c'est pas terrible.
Après Donnarumma tir au but,
très bien. Mais bon, et puis. Pour finir ça, moi je suis pas du tout complotiste, mais la prochaine fois que. Non, du tout.
Alors, les phrases qui commencent comme ça.
Ouais, mais parce que.
Je me regarde, Vincent, oui, je suis souvent très mal.
Oui, vous avez.
Un point bientôt, là.
Non, mais vous avez raison, mais il faut. Voilà, pour les amis de France Télévisions, quand vous faites venir quelqu'un qui fait le tirage, il faut que le gars ait l'air un petit peu convaincu de ce qu'il va faire.
Il était pas dans l'eau.
Il était pas dans l'eau, le gars du waterpolo, là. Il mélange même pas les boules. Mais pour le spectacle.
Il avait fait tomber une boule.
Ouais, il se brûle un peu.
Mais non, je dis pas ça, mais je dis que voilà, ça éviterait justement qu'il y ait du complot en disant là, vous avez vu, le gars, il avait la main sur la boule et il tournait tout autour. Bon.
Quand c'était Coluche qui faisait le tirage,
c'est pas de bol, mais ça serait bien que le gars ou la fille fasse le spectacle, mélange bien les boules comme.
Se mettre à jongler comme ça.
Pourquoi pas. En attendant, dimanche 17h05, parce que Rennes joue toujours le dimanche à 17h05,
C'est Eric Bénard pour Canal Plus.
Va à Lille.
Non, c'est 17h, moi j'ai vu. Ça fait deux fois que je vois écrit 17h, je joue sur des choses différentes et je me suis dit.
Le coup d'envoi était à 17h05 hier, non ?
Le dimanche c'est 17h05, je sais. Je crois qu'on en a parlé en plus. On a vu sur la programmation.
On a une discussion passionnante.
On parle du Stade Rennais toute la journée.
C'est Lille. Alors Lille, c'est compliqué.
C'est toujours compliqué.
Bah, 9 matchs sans victoire pour Rennes, tout simplement, en Ligue 1, série en cours, donc c'est la pire série de matchs sans victoire face à des clubs du championnat, parce qu'on parlait de bête noire pour Lorient, mais alors Lille c'est très très compliqué, et puis Lille c'est une seule défaite sur leur 34 derniers matchs à Pierre Mauroy, donc voilà.
Le cadre est posé. Je vous dis ça pour vos pronostics, vous voyez.
La seule défaite, c'est contre Reims, je crois que c'est en octobre.
C'est Reims en début de saison.
De saison, donc oui, c'est évidemment compliqué. Maintenant, moi je le répète, Rennes a le droit aussi d'aller gagner contre des concurrents. On l'a un peu oublié, quoi, mais Rennes ne fait plus jamais un résultat chez des concurrents.
Je crois qu'ils savent qu'ils ont le droit, hein, c'est la question.
Ce qu'ils peuvent, évidemment, qu'il y aura une réaction, mais on lit, ouais, c'est bon, c'est fini, Rennes joue Lille, Marseille, Monaco, c'est terminé, il n'y aura que des défaites.
Non, personne ne dit ça.
On peut imaginer l'inverse, hein. Comme dit Clément, ils ne sont pas interdits de faire un exploit, parce que ce sera un exploit de gagner là-bas.
D'autant que Lille joue cette semaine en Coupe d'Europe.
Contre les redoutables, c'est qui?
Sturmgratz.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas, ouais, mais faut y aller.
Sturmgratz, je pense que Rennes tirerait bien la langue contre Sturmgratz.
Et puis, il n'a pas non plus un effectif qui est hyper large. Donc peu,
il a un effectif qui n'est pas hyper large. Il a plein de blessés, Fonseca.
Puis, c'est pas du tout constant. Il a attention.
Ça commence à revenir, non?
Ouais, mais là, l'autre, j'ai regardé Lille parce que je prépare un peu. Là, déjà,
et
j'ai vu que David était un. Voilà, il a failli sortir.
David?
Ouais.
Edgar?
Voilà.
Mais Lille est super inconstant. Enfin, ils ont été capables d'éclater à Toulouse. Ils prennent 3 ou 4,
oui,
3, je crois.
Ils ne sont pas comme disait François.
Ouais, mais c'est rarement brillant. Ils ne mettent pas non plus de raclée.
Vraiment, eux, c'est vraiment l'équipe classique. Ça cas, gagne on gagne à domicile, on perd à extérieur. On gagne à domicile, on perd à extérieur.
Il faut prendre des points, en tout cas, parce que autrement, en cas de victoire de Lille, ils seraient à 9 points.
Ouais. Il faut rattraper Lorient, c'est clair. Enfin, rattraper
ce match de Lorient. Une équipe aussi solide à la maison qu'à 9 points d'avance.
Oui, mais qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder la 6ème place, non?
Bah, 5 ou 6, ouais.
Non, la deuxième.
Nice, 7ème, peut-être nice même, si le PSG gagne la Coupe.
Nice dégringole.
Ouais, dégringole. Ouais, Nice dégringole. Alors, ça sera sans Désiré Doué, hein, à Lille.
Ça, c'est problématique quand même.
Ça, c'est problématique. À cause de ce carton qu'on va revoir, là.
C'est la faute de qui, ce carton?
Bah, regardez le dégagement du gardien derrière.
Non, mais la faute, c'est l'arbitre. Hein.
Après, il peut prendre un deuxième jaune derrière. Donc,
oui, mais celui-là, il mérite pas. Voilà, on va voir, ouais, ça lui arrive, 1, 2, 3, 4, vous arrêtez pas de faire des fautes, monsieur Doué.
Ça, c'est vrai qu'il avait raison là-dessus, l'arbitre, il y avait beaucoup de fautes.
Regardez, oh là là, comment on peut envoyer un ballon à un gars qui est aussi loin et...
C'est assez dur, en plus qu'il l'attrape, moi, je trouve.
Voilà, bon, donc il n'y sera pas.
Le milieu, ça va être compliqué. Hein.
Non, mais alors, bonne nouvelle, parce que moi, je pense que peut-être qu'on reverra Martin Terrier à gauche, en tout cas, je l'espère.
Mais je pense qu'il est meilleur.
Un peu fatigué, je pense, Martin Terrier.
Je pense qu'aujourd'hui, il n'a pas d'impact dans les deux de devant. Au moins, de jeu milieu gauche, il va être obligé de toucher des ballons. Et franchement, il est bon quand il veut participer au jeu et qu'il ne se cache pas. Voilà, il va être obligé. Bah, c'est ce que fait aussi Désiré Doué, mais il peut revenir à l'intérieur.
Et alors, vous
qui
avec lui, alors, devant?
Maguiri et Kalimundo.
Kalimundo, vous le remettez encore?
Bah là, de toute façon, il y a pas
Bartou, il dirim, si vous voulez, mais bon, il faudrait qu'on prouve qu'il a des pieds pour jouer au foot.
Pas le mettre hier, dans ce cas, d'entrée, il dirim pour jeu de tête. Mais...
Vous vous souvenez du match aller? Je vais vous remontrer des images. Il était spectaculaire, le match aller. Parce que Rennes est mené 2-0, hein, avec un beau coup franc, regardez. Boum. C'était une époque. Ça paraît loin.
Mathieu,
je suis là. Ça paraît loin. D'autres... Hop, là, regardez, les coups de pied arrêtés, ça allait jamais. Ah, tiens. Le gardien qui relâche sur le sur l'attaquant.
Elle est pas mal aussi cette relance bien pourrie là.
Ah sinon donc.
Moi je pense que ce but là, il est en concurrence avec le but de Gouiri au parc pour le.
Beaucoup plus clair le but de Gouiri au parc.
C'est pas clair.
C'est Chevalier.
Non non, il y a un compte favorable au départ.
Ouais voilà.
Et
Chevalier. Voilà. Bah non non mais c'était votre ami Salah. Alors un peu contré, voilà, sinon le gardien était dessus, mais voilà, donc ça va être un match compliqué, c'est un peu un match charnière déjà, parce que les deux matchs qui arrivent là, avant la trêve, et éventuellement des prolongations ou des discussions à propos de Stéphane, c'est des matchs qu'il faut pas rater, comme le dit Clément, on a tendance à dire que ça va être difficile.
Ça va l'être, mais après...
Je pense que ça va être plus dur.
Ça plombe clairement la fin de saison. Là, oui.
Je suis moins inquiet pour Marseille.
Vous pensez que deux défaites, ça plombe la fin de saison?
Ah bah là, vous êtes à 9 victoires, 9 défaites dans ces cas-là.
Deux défaites, c'est plus compliqué ensuite. On va remonter.
Deux défaites, ça serait très
bien. Mais par contre, faire 4 points sur ces deux matchs, ce serait parfait pour lancer le sprint final derrière.
6 points, ça serait formidable.
Ah bah, ça serait génial.
D'accord, je vois bien.
Et Marseille aura sa double confrontation avec Villarreal, qui c'est jamais facile. Ils l'auront dans les jambes. C'est pas non plus devenu une équipe Ligue des Champions.
Ils ont tapé Gasset.
Oui, mais voilà, il y a un effet en ce moment, parce qu'évidemment, il y a quand même un effectif. Mais on verra.
Le match, Rennes aura dû avoir une semaine à chaque fois, ils vont récupérer. Voilà. Parce qu'il y a quand même eu. Il y a quand même eu un tunnel de match. On sentait venir quand même le craquage à un moment avec un effectif très réduit.
Bah oui, voilà, c'est normal. Match en un mois,
et l'enchaînement de la fatigue mentale parce que ce redressement, il leur a coûté beaucoup d'énergie physique, mais mentale aussi quand même. Il faut aller les chercher. Tous les résultats, c'est pas évident.
Les éléments déjà de ce qu'on a vu dimanche.
C'est comment l'équipe aussi va encaisser cette défaite pour repartir, parce que ça peut être compliqué aussi psychologiquement de dire on a cravaché et puis là on perd un match, on est encore un petit peu.
Et on a vu que ça comptait parce que Blas a dit que il savait qu'ils avaient un coup à faire et voilà effectivement. Donc,
alors on va passer au pronos. Le tableau des pronos, il n'a pas changé depuis la semaine dernière. Personne n'avait donné Lorient hein, parmi les.
Même pas moi.
Même pas vous.
Mauvaise langue.
Ouais, vous étiez à 1-1. Donc on change rien. Et je vous demande, Clément, voyez où vous êtes les uns les autres. Il est pas mal, hein, Julien Bouguera. Il est à tout près.
Il m'a enlevé des points.
Mais non,
il est bien.
Mais non,
c'est
pas possible.
Je joue des victoires tout le temps.
Mais oui, mais là, non, non.
Tout le temps en ce moment, je perds des places. C'est
pas mais, oui, mais parce que vous marquez un point par un point. Et ça, et ça, alors, ça paye pas.
Tout le monde marque un point, puis tout le monde a marqué un point. Non, Thomas a marqué 4 points.
Tournez ton compteur.
Alors, très rapidement, Clément, vous dites quoi?
3-1 pour Lille.
3-1 pour Lille. François.
Thomas Rassouli, il dit quoi? Moi, je voudrais que je regarde sur le leader.
Ah, oui.
Allez, je vais tenter un petit nul à 1 quand même.
1-1. D'accord. Julien Bouguera.
La même que François.
1-1.
Ah bah, j'allais dire pareil. Alors, Laurent, je vais dire 2-2 alors pour me démarquer.
D'accord, 2-2.
J'y crois pas du tout.
Et moi, je dis 2-0 pour.
Lille.
Pour Lille.
Pour le 300e match de Bourigeaud, je crois, sous le maillot.
Ouais. Dans son stade Oni.
Dans son stade Oni, justement.
Enfin,
où
je peux juste dire un petit mot vite rapide.
Oui.
Je voulais saluer Julien, un supporter du Stade Rennais, qu'on avait invité, vous vous savez, Vincent, au Champ Libre pour une réunion Explore West France TV Rennes. Et ce fameux Julien, par un an à Mayotte, un super supporter, un super mec, et je le salue.
D'accord.
Je salue aussi JB du Moulin de Taroudan, parce que plein de carnes et regarder au Maroc. Donc,
très bien.
Salut Geneviève. Non,
salut ma belle-mère qui vient faire manger ce week-end.
Super, j'étais bien content. Les amis.
Geneviève, je sais que Geneviève.
J'étais bien content que vous soyez là. On va se retrouver la semaine prochaine après Lille. Même endroit, même heure. D'ici là, passez une bonne semaine et allez Rennes.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitant, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.